La vallée d'Esvins, les hauteurs de Benmel ou encore le Hobiros, le Massatois, près du village du port, sont caractérisés par la profusion de champs en terrasse soutenus par des murets de pierres sèches. Constitués avec des pierres détachées des pentes, ramassées dans les champs, dans les prés de fauche ou d'altitude, les montagnards, les bergers ou les bûcherons ont construit ces murs de soutènement, des abris pour leurs bêtes. Afin de tirer parti de leurs terres, les paysans ont dû enlever les pierres. Construire des murs était la meilleure façon de gagner de l'espace tout en délimitant les parcelles. Parfois, ces murets constituant la limite entre le privé et le communal étaient entretenus par les riverains. Parmi ces ouvrages, on peut englober les oris de la région de l'étang de l'Hers, admirablement décrits et dessinés par Alain Bourdeton. Ces constructions ne doivent pas être confondus avec les murs de Moëlon élevés de tout temps avec des pierres de taille liées par des couches de mortier, de terre ou de chaux. L'appareil en pierre sèche ne fait appel à aucun liant, toute sa solidité tenant dans le soin et l'habileté de l'empilement. La profusion de ces ouvrages en pierre dans nos montagnes du Haut-Couseran a nécessité l'épierrage des terres souvent ingrates. Aussi, allons-nous ce soir nous pencher sur l'importance de la pierre dans le Haut-Couseran. Pour construire leur habitation principale, il était nécessaire d'avoir recours à une main-d'œuvre abondante. Souvent, le matériel utilisé était fourni par la nature et les techniques employées pour résoudre les différents problèmes liés à leur édification dépendaient de l'état d'avancement technologique de la société, donc de l'époque. Les matériaux ayant été pendant longtemps intransportables vu la défaillance des moyens de transport. À ce sujet, on pourrait évoquer le rôle de la terre, matériel facile à manier. Mêlée à l'eau, la terre se moule à volonté avant de sécher et de se durcir. De plus, elle constitue un excellent isolant. Avec la pierre, l'homme se sent définitivement à l'abri. De plus, il est certain de pouvoir léguer sa maison à sa descendance. Construction faite pour l'avenir, elle devient une maison de famille permettant la perpétuation de souvenirs des anciens, voire à la naissance d'un culte familial. Il faut dire que le terrain sur lequel était construite la maison, du moins à l'origine, avait peu de valeur. La maison occupait souvent un coin de terre improductif ou carrément infertile. Ainsi, pitons, pentes, déclives furent-elles choisies, laissant les terrasses aux cultures. Il n'est pas étonnant de voir le long de nos vallées encaissées des habitations perchées sur des crêtes rocheuses, des liserés de forêt ou des rebords de landes. Demeure éphémère au départ, la maison prit au fil du temps de plus en plus d'importance. L'attitude de l'homme à son égard évoluant, il fut progressivement fait appel à des spécialistes de la construction comme les maçons ou les charpentiers. La maison, avec son emplacement, prenait alors une valeur exceptionnelle. Elle apparaît ainsi à l'image de ce que l'homme a rêvé, c'est-à-dire à l'immortalité. Elle semblait prolonger la vie à travers les générations, devenant ainsi un symbole d'éternité. Mais pour user de la pierre, encore faut-il que celle-ci présente des qualités propres à la construction. Les roches trop friables sont inutilisables, quoique certaines d'entre elles friables dans le sol se durcissent à l'air. Ces dernières faciles à extraire et à tailler sont à vrai dire fort intéressantes. Au début, les hommes ont utilisé, et cela malgré le poids, les blocs naturels. Ils avaient appris à les manier dès l'époque mégalithique, laissant les plus grosses à la base, entassant les autres au-dessus. Plus tard, on a cherché à avoir des pierres de calibre identique afin de régulariser la construction. En apprenant à les tailler, on fut amené à distinguer celles qui étaient faciles à travailler et celles qui ne l'étaient pas. En général, la pierre de surface n'est pas un bon matériau et se taille mal. Pour avoir de la vraie pierre de taille, il faut creuser des excavations jusqu'à la roche saine. Il faut dire que la maison de pierre réclame le plus souvent l'ouverture de carrières en plein air, voire de galeries souterraines. Le métier de carrier vit alors le jour. Il est certain que que dans nos régions, la pierre étant partout présente, on utilise calcaire, gneiss et schiste. Cependant, il devenait nécessaire de boucher les interstices, diminuant la solidité des murs et laissant passer l'air, voire l'eau. Mais pour avoir de bons ciments, il fallait du calcaire. Les Romains les connaissaient déjà et avaient rendu les murs complètement étanches. Ils pouvaient utiliser ainsi des blocs de toute forme non équarris. Généralement, on choisit les blocs issus des zones sédimentaires disposées en strates et séparées par des clivages. Il suffit alors d'empiler ces éléments horizontalement pour élever les murs dits en pierre sèche. Comme nous l'avons vu précédemment, la construction de ces murs était un moyen de débarrasser le sol de ces trop nombreuses pierres naturelles. On bâtit pour épierrer les champs, soit des clôtures, soit des cabanes, soit des maisons. L'utilisation de la pierre pour la toiture devenait très délicate du fait du poids. Il faut des pierres plates comme les schistes. Ces pierres, appelées lozes, nécessitant des charpentes solides, imposaient un toit à faible pente afin d'éviter les glissements, ce qui n'est pas le cas du Haut-Couserans, pays fortement enneigé. Le chaume a joué un grand rôle dans nos contrées. Des chroniqueurs du XVIe siècle et du XIXe siècle évoquent les chaumières et leur couverture de chaume dans les vallées de Benmal, du Garbet et de Massat. Le recul du seigle provoqua un retrait du chaume en tant que couverture au profit de l'ardoise. Il subsista encore longtemps pour recouvrir les granges. Il est possible d'en rencontrer encore quelques-unes. Nous noterons au passage que le chaume a été responsable des pignons de maçonnerie en gradin que l'on peut encore admirer dans certaines contrées comme la région de Cominac. Grâce aux multiples affleurements de schiste, l'ardoise connaît depuis un très grand succès, constituant le mode essentiel de couverture dans le Couserans. Dans ce Couserans, on utilise une ardoise fine pouvant s'adapter sans difficulté aux toits en forte pente des zones de montagne. Les toits à quatre pans du Castillonnet, munis de petites lucarnes, en sont un exemple. Soulignons au passage que la zone du Piémont couseranais accorde, elle, un grand rôle à la tuile romaine ou tuile à canal. En dehors des habitations, il fallait assurer une certaine rationalisation des cultures dans des terrains à forte déclivité. Comme nous l'avions vu, les murets en pierre sèche ne suffisaient pas à arrêter le glissement de la terre, imbibés par les longues pluies d'automne et de printemps. De plus, ces murets avaient tendance à s'écrouler ou à être victimes de glissements de terrain. Les montagnards étaient obligés de consacrer des journées de travail à la remontée de ces terres. On remontait les terres avec des paniers, soit avec un traîneau appelé El Rusa. On utilisait parfois l'âne chargé avec des caisses à fond mobile. Les murets et architectures de pierre sèche ou celles utilisant des liants comme la terre ou la chaux sont fragiles et éphémères. Nécessitant un entretien annuel pour remettre sans délai les pierres qui partent, stabiliser ou réduire les tassements normaux, les ventres qui peuvent se former. Ces processus d'entretien, comme celui de l'épierrage, s'inscrivaient dans les activités agricoles et pastorales permanentes. Avec la diminution de ces activités, la végétation envahit les champs et les pâturages. Les arbres grandissent et se multiplient. Leurs racines crèvent les murs des terrasses. Les branches secouées par le vent fouettent les corniches des cabanes et arrachent les premières pierres. Les nombreuses terrasses que l'on peut voir dans les zones de montagne ou versants abrupts du Haut-Couserans comme du Haut-Biros sont elles aussi victimes de la déprise agricole. Si elles se déstabilisent, les pentes s'effondrent. Où est passée la longue patience des anciens remontant inlassablement la terre descendue et reconstruisant les murs en pierre? Si la nature délaissée remplit inexorablement son long travail de destruction, l'homme issu de la civilisation citadine est aussi responsable. Inutile d'évoquer les voleurs de pierres sèches voulant agrémenter leur jardin ou leur résidence secondaire. Souvent, pour parvenir à leur fin, ils n'hésitent pas à arracher les linteaux, rendant par là même la cabane irrécupérable. Que de dégâts parfois pour une seule pierre. Et puis, au risque de pécher par mauvais goût, on peut parler de ces adultes incapables de repartir avec les déchets de leur pique-nique ou, craignant à tort ou à raison, d'exposer leur auguste postérieur au plein air, quittent à choisir l'intérieur d'une cabane pour déposer le fruit de leur digestion. Et oui, la profanation et le vandalisme commencent souvent ainsi. Bonne soirée, chers auditeurs.